partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Tous ensemble présente Focus. Tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM.
98 FM. Focus. Focus.
98 FM.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Focus, l'émission qui interroge les parcours, partage les univers. Et comme à chaque fois, je suis accompagné de toi, Sidi, comment est-ce que tu vas?
Ah, ça va très bien, tu me connais, on est là.
Au top.
Tout va bien, avec l'équipe. Jamal, comment tu vas? Jamal classique.
Mohamdoullah Saba.
Ah, c'est qui valide.
C'est bon, il valide avec un retour, hein. On a Ryan qui est de retour. Bien Ryan, ça va? T'as bien dormi pendant 3 mois?
En plus, il est passé d'une caméra à un iPhone, il a... Il est parti en cacahuète, le gars.
Il y a Baba qui est là et tout va bien. Et puis, on a un invité, Yakuba, avec qui on va discuter, on va parler, on va découvrir un peu son environnement.
Exactement. Bah, Yakuba, t'as 39 ans. T'es manager Exactement. D'une équipe opérationnelle à la BNP Paribas.
Tout à fait.
T'es très impliqué dans la vie associative, humanitaire. Et aujourd'hui, t'es venu pour porter une asso qui te tient à cœur, dans laquelle tu es.
Exactement.
Qui s'appelle Tambe Espoir, si tout je ne me trompe pas.
Tout à fait.
On est très heureux de t'accueillir.
En tout cas, merci. Merci, bonsoir à tous. Déjà, merci en tout cas de me laisser l'opportunité de venir représenter et parler de mon association. Donc, juste une petite brève introduction pour me présenter.
Hein.
Donc, voilà, Yakuba, 39 ans, né à Châlons-en-Champagne. C'est important D'accord. de le préciser parce que voilà, je suis pas parisien de base.
Mais c'est rare de nos invités.
C'est rare. Et,
exactement. Donc, c'est pour ça que j'aime bien parler un peu de mes racines champenoises.
Mais c'est important, c'est bien de le dire.
Et ça se voit aussi à travers mon visage dès qu'on me voit. On voit que je suis de la Champagne Ardenne. Donc voilà, j'aime bien faire ce petit parallèle à chaque fois parce que voilà, ça en surprend plus d'un. Donc voilà, né à Châlons-en-Champagne et du coup, effectivement, manager opérationnel dans une fila du groupe BNP Paribas. Okay. Où je gère une petite équipe, d'une dizaine de personnes.
Et une petite parenthèse, il y a moyen d'avoir un prêt, là. Je suis obligé d'acheter. C'est un peu dur.
On se voit après l'émission au calme.
Ça marche.
Au calme, on peut mettre ça en place, il n'y a pas de souci.
Voilà, j'aime bien.
Voilà, merci.
Jamal valide.
Il valide.
Écoute, merci pour cette petite intro. On va revenir vers toi juste après un petit morceau, un premier. On va s'écouter Alone de Burna Boy.
Ok.
So not a fight for my life, it's alright. Because everything dies, nobody know why. What can I go do? What can you go do when you're feeling like you're falling and you can't find nothing to hold on to? Memories are carry me Yata fita, take me far away. Miss a DJ, make me cry by ye. Now one no be just anybody. Like me can no be shy. So the dolly die,
Nous sommes de retour sur Focus tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM. Nous sommes aujourd'hui avec Yakuba qui est venu porter l'association Tambe Espoir. Mm-hmm. Mais avant de se focaliser sur l'association, on va un peu parler de toi.
De ton parcours.
Bah ouais, carrément.
Champenois. C'est comme ça qu'on dit.
Exactement.
On le reconnaît aux lunettes. Ça sera directement. Bah écoute... Déjà, dis-nous comment t'en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui. Tu gères une équipe de 10 personnes, c'est énorme, c'est beaucoup.
Non, ouais, effectivement. Bon, rentré déjà dans le groupe BNP Paribas en tant que stagiaire.
Ok.
En tant que stagiaire, parce qu'à la base j'ai un master 2 en management de projet. Et de là, un stage de fin d'études qui s'est très bien passé. après lequel on m'a proposé du coup de poursuivre en tout cas l'aventure dans le groupe BNP Paribas. Donc c'est comme ça en fait que je suis rentré. Donc je suis rentré en stage il y a 13 ans maintenant.
D'accord.
Okay. Il y a 13 ans. Donc rentré en stage et bon voilà, la chance qu'il y a en fait dans ce type d'entreprise, c'est que il pousse beaucoup, on va dire, à la mobilité interne. C'est-à-dire que vous avez la possibilité en fait de faire plusieurs jobs dans la même entreprise. Okay. Donc vous pouvez passer d'un univers à l'autre très facilement. Donc c'est comme ça en fait que je suis passé du coup de management de projet à responsable de compte commercial. Okay. J'ai été en fait du coup commercial pendant un moment où j'étais commercial plutôt sédentaire, où je m'occupais en fait d'un portefeuille de clients. Okay. Plutôt grand compte, avec des du coup des sociétés qui pouvaient avoir entre 5 et 10 000 véhicules de service et véhicules de fonction à la route. Et après effectivement cette expérience qui a aussi été concluante, j'ai voulu passer un cap et de passer commercial terrain. Là en fait, là vous allez vous frotter en fait aux acheteurs, aux décideurs. Okay. Aux gens effectivement qui ont des couteaux entre les dents.
Qui essayent d'être plumés.
Exactement.
T'as l'habitude des confrontations un peu ardues.
Exactement, des grosses négociations. D'accord. et des voilà des rapports et des échanges voilà avec des gens qui ont des grandes responsabilités.
Ok. Et moi je voulais revenir justement par rapport à ça. Tu me dis t'as commencé en tant que stagiaire.
Oui.
Aujourd'hui on sent après là, donc c'était il y a 13 ans. C'est mais ça. Comment c'était justement quand tu cherches un stage, quand tu vas démarcher les entreprises, le regard des entreprises, comment ça se passe? C'est quoi? Tu peux nous expliquer un peu, parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué.
Bien sûr, bien sûr. Donc tout part déjà de la présentation.
Okay.
Déjà il y a des
codes à avoir.
Des codes, effectivement, des bases qu'il faut effectivement soigner. C'est-à-dire déjà sur que ce soit son CV, que ce soit sur sa lettre de motivation. Effectivement, il faut donner en tout cas l'envie aux personnes en fait qui vont nous rencontrer de nous recruter et de nous retenir. Et pour ça, pour se mettre en avant, pour se mettre en valeur, ben voilà, il faut s'entraîner.
Okay.
Un entretien, ça se prépare en fait.
C'est vrai.
Un entretien, ça se prépare. Un speech, ça se prépare. Donc moi, ce que j'encourage à faire, ce que je fais même jusqu'à aujourd'hui, c'est que avant effectivement d'aller me présenter, ben je me renseigne sur l'entreprise.
Okay.
J'essaie de regarder effectivement quelle est l'activité principale qui est faite. J'essaie de voir par rapport à mon parcours comment effectivement je peux m'insérer, comment je peux m'associer en tout cas à ce que cette entreprise fait et comment je peux effectivement leur dire que ma personne peut contribuer à la réussite de cette entreprise.
D'accord.
Et ça, c'est important effectivement de le mettre en avant, et surtout pour les jeunes qui aujourd'hui effectivement peuvent des fois
n'ont pas les codes aussi, tu vois,
voilà.
N'ont pas forcément les codes et tout ça.
C'est ça. C'est difficile de se vendre à une entreprise quand surtout c'est tes premiers entretiens d'embauche.
Exactement.
Il y a un certain stress qui est omniprésent tout le long de l'entretien.
Et toi, t'as justement avant ça, tu t'es préparé. Comment tu te prépares? Ça veut dire que là, je suis stagiaire, moi, j'arrive. Bon, peut-être j'ai pas la dégaine aujourd'hui, avec ma casquette, plus la capuche, tout ça. Ouais. C'est mort pour moi.
Bien sûr.
Mais Melik, ouais, parce que Melik, il a ramené les pompes à Michael Jackson.
Jackson aujourd'hui, c'est vrai. Les mocassins.
Chaussettes blanches.
J'avoue les mocassins. J'avoue les mocassins.
Ça va toujours là. Le CDI direct.
Ouais, le pantalon sauté. Le pantalon sauté. J'avoue.
Donc on est obligé, c'est punchline.
C'est la formule secrète.
Mais voilà, moi je parle pour les jeunes parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent. Comment tu fais pour te préparer? Comment tu fais pour, si t'as pas les codes, t'as pas les moyens de pouvoir écrire correctement, de pouvoir te présenter correctement.
Bien sûr.
Ça passe par quoi?
Ben typiquement, moi aujourd'hui, je suis amené à faire du recrutement.
Okay.
De fait de mes responsabilités que j'occupe aujourd'hui, je fais des recrutements et je rencontre en fait beaucoup de jeunes. J'ai tous les profils. Ouais. J'ai des gens, sans déconner, qui sont même arrivés en survêtement.
Ouais.
À aujourd'hui. Donc quand je parle effectivement de code, c'est juste effectivement pouvoir se présenter, avoir une tenue présentable dans le cadre d'une entreprise. Aujourd'hui, c'est vrai, hein, les gens sont un petit peu plus cool, mais ne serait-ce que mettre une chemise, un pantalon et des chaussures, pas des baskets,
ouais,
c'est déjà, on va dire, une première étape. Ensuite, il y a effectivement le langage. Le langage, la parole, la manière de s'exprimer. Alors les mots familiers et toutes ces choses-là, moi j'ai rencontré aussi des gens qui me parlaient comme si on se connaissait depuis effectivement 20 ans.
Okay.
Alors ça, non. Il y a effectivement en tout cas un certain langage soutenu à avoir, une certaine distance en tout cas à mettre par rapport à l'interlocuteur qu'on a en face. Et ça, pour le coup, ça aussi, ça se prépare. Et comment ça se prépare, effectivement, ben, moi, typiquement, hein, je le prépare à la maison. Quand j'ai des fois des discours à faire, quand j'ai des déclarations à faire, devant même un miroir.
Okay.
Je vais me préparer, je vais essayer de répéter, en fait, mon speech. De manière à ce que ce soit plus fluide, de manière à ce que ce soit naturel. Parce que c'est vrai, se présenter, présenter ses qualités, mettre ses atouts en avant,
c'est compliqué.
C'est pas inné. C'est pas facile.
Et c'est bien que tu le dises. Et pour ça, c'est pour tous les jeunes qui nous écoutent, parce qu'on est là quand même. On essaye aussi de faire passer des messages.
Bien sûr.
Ça veut dire que prenez-vous en main. Je dis pas ça pour tous les jeunes, mais il y a des jeunes, c'est vrai. Tu vois, prenez-vous en main si vous voulez du taf et tout ça.
Bien sûr.
Essayez un peu de level up, comme on dit, tu vois.
Il y a des efforts à faire.
Ouais, il y a des efforts à faire. Et c'est normal. En tout cas, merci, Yacouba, parce que c'est bien. T'as un profil, justement, qui fait que inspirant et tu peux inspirer d'autres jeunes. Donc, c'est ce qui est bien et c'est ce qu'on aime ici sur l'émission Focus, justement, c'est d'avoir un peu des profils différents. Donc là, aujourd'hui, toi, on a parlé de toi, de ton de ce que tu fais,
bien
de
sûr,
taf.
Bien sûr.
Mais en fait, la première, pourquoi on t'a invité, c'est parce que aussi t'es un acteur associatif.
Exactement.
Justement, nous, comme il disait Melik, on aime bien découvrir les gens mm-hmm. par rapport à la musique. On
bien
est
sûr.
Une radio.
Bien sûr.
Donc, Melik, là, on va écouter un premier morceau et on va revenir vers toi pour savoir un peu.
C'est la petite tradition pour te connaître un peu mieux, mais
en
musique.
Plaisir. Avec plaisir.
Soldar su marelor, malaki finu jenguti makaza masa. Kero kifan US, aini tengi gori bagas, nyonu tengi nar dengen tiene kaza masa. Sita egi na faraldi, sope kungi nyai, bebe fujamu ama, mudu baja kasele. Menyu banyo tokun sumer,
alors Yacouba, dis-nous, qui est le chanteur, c'est quoi ce morceau et qu'est-ce qui t'évoque?
Alors, ce chanteur, c'est très simple, c'est une icône nationale du Sénégal, du coup, qui s'appelle Youssou N'Dour. Du coup, personnage, on va dire, à ne pas...
Emblématique.
Et qui n'est plus à présenter, en tout cas au Sénégal. Donc, Youssou N'Dour, hein... on va dire chanteur à la base, homme politique, businessman, voilà, il est vraiment une personne et un personnage clé en tout cas au Sénégal, qui effectivement œuvre en tout cas à travers le monde pour la reconnaissance de ce pays, donc Sénégal qui est mon pays d'origine aussi.
Okay, okay.
Raison pour laquelle effectivement, ben bah, c'est un chanteur, bah voilà, qui a baigné mon enfance, qui a, bah, qui depuis, voilà, depuis que je suis né, en tout cas j'écoute ses sons, j'écoute ses musiques, et bah voilà, jusqu'à présent, en tout cas ça me colle à la peau.
Et justement, c'est Youssou N'Dour, c'est quelqu'un qui t'a inspiré. Ça veut dire
mais complètement.
Ouais. Par rapport à toi, ton parcours, par rapport à ce que tu fais aussi, par rapport au Sénégal et tout ça.
Complètement.
Tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le
alors déclic? Complètement. Youssou N'Dour, ce que j'apprécie chez lui, ce que j'aime bien, c'est que c'est quelqu'un qui est très nationaliste. C'est-à-dire que c'est un artiste en fait qui aurait pu effectivement se développer beaucoup plus à l'international, mais c'est une personne en fait qui aujourd'hui est patron du coup de plusieurs entreprises, de plusieurs sociétés, qui emploie énormément de monde en fait au Sénégal et qui fait énormément pour la promotion en tout cas de ce pays, pour pouvoir attirer des investisseurs, faire en sorte que l'économie puisse avancer et surtout améliorer aussi les conditions de vie des gens en local. Donc quelque chose qui moi me touche particulièrement, parce que du coup on en reparlera par la suite par rapport à mon parcours un petit peu associatif et humanitaire, et c'est en ça effectivement que je me retrouve beaucoup à travers l'artiste, okay, l'homme engagé, la politique. Je suis pas très politique, moi je suis plutôt apolitique, donc je suis pas du coup d'un parti ou d'un autre, mais sur le côté humain, on va dire, de la personne, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Après, il a une voix exceptionnelle aussi.
C'est vrai.
Il a une voix exceptionnelle.
Tu connaissais Médicaire?
Ouais, je connaissais de nom. Toi, j'imagine que tu connais aussi.
Oh, je connais. Avec, il a fait un gros morceau avec
Néné Chéri à l'époque.
À l'époque.
Seven Seconds,
ouais, exactement. Donc, non, je connais, j'écoutais, et puis j'écoute encore. Et c'est bien justement de savoir un peu ce qu'il fait, parce que nous on le connaît en tant que chanteur, on
tout
sait
à fait.
Pas forcément en fait ce qu'il fait au Sénégal.
Bah, pour le coup, je savais pas du tout.
Voilà,
tu étais engagé dans la.
Était engagé comme ça, moi pays. Aussi, tu vois, je découvre.
Bien sûr, bien
et,
sûr.
Et ça, c'est des belles valeurs, et c'est bien de le mettre en avant. On se fait un deuxième morceau et on revient tout de suite.
Satan di yodo ya mom line.
Encore et toujours Youssou N'Dour, c'est ça?
Magnifique.
Birima, le morceau, si je ne me trompe pas.
Exactement, exactement.
Et qu'est-ce qu'il évoque en toi, ce morceau?
Ça évoque tout, ça évoque moi, mes souvenirs, hein, mes vacances, ça m'évoque aussi certains proches qui sont plus présents aujourd'hui. Ça m'évoque, bon voilà, la famille, toutes les valeurs, on va dire, africaines, qui peuvent ressortir, en tout cas, de cette musique-là, de solidarité, de vivre ensemble, de tolérance. Donc c'est ça en fait cette musique là en tout cas transpire en tout cas toutes ces valeurs là et
en tout cas on fait découvrir justement le son sénégalais, le son de Youssou N'Dour à nos auditeurs.
Mbalar, tout voilà. À fait, qui s'appelle Mbalar, particulièrement, tout à fait.
Et je voulais revenir sur un truc. Donc là tu fais beaucoup d'actions au niveau du Sénégal.
Oui.
Chalon en Champagne, comment ça se... C'est comment? Tu vas nous expliquer t'es né là-bas donc.
Et j'ai même grandi à Chalon en Champagne.
Ouais. Le grand écart, ça fait comment?
Alors tout simplement parce que dans les années 70, quand du coup mon père a quitté le Sénégal pour venir s'installer en tout cas en France pour nous pour faire sa vie de famille. Okay. Et donner un avenir en fait à sa famille. En fait, il a débarqué à Chalon en Champagne en fait.
D'accord.
À Chalon en Champagne, où résidaient déjà certains de ses grands frères en fait, qui avaient déjà ouvert la voie. Et c'est beaucoup comme ça en fait dans D'accord. beaucoup de pays africains. Quand il y a une personne, on va dire d'un village, qui arrive dans un endroit, finalement les autres, quand ils arrivent, ils le rejoignent en fait dans le même lieu. Et c'est comme ça en fait que mon père a atterri à Chalon en Champagne. Et finalement, il s'y est plu. Il a aimé le cadre. Il a aimé l'environnement. Bien évidemment, il y avait d'autres membres de la famille qui étaient basés sur Paris et en région parisienne. Mais...
Et pourquoi le choix ne s'est pas fait? Parce que généralement, on sait, nous, parents issus de l'immigration... Et
bien
tout
sûr,
ça,
bien sûr.
On se dirige un peu sur Paris
tout
ou la
fait.
Banlieue parisienne.
Tout à fait.
Mais tu vois, la province, Chalon-Champagne, c'est... Bah, c'était un avant-gardiste peut-être bah, aussi.
Tout à fait. En fait, c'est tout à fait ça. Parce que en fait, il était un petit peu visionnaire en fait, okay. Mon père. Il s'est rendu compte qu'effectivement que les conditions de vie parisiennes entre bah, déjà la population qui est déjà doublée, triplée, et le cadre de vie et l'environnement étaient peut-être un petit peu plus complexes que Chalon-en-Champagne où à l'époque 30 000 habitants.
Ouais, non, mais c'est important voilà, de le dire.
30 000
ouais.
habitants, c'est limite un village, ouais, tout le ouais. monde se connaît, il y a beaucoup d'espace, le cadre de vie est un petit peu plus simple, l'environnement aussi, voilà, c'est que des champs. Ouais, c'est que des champs, c'est que des champs, c'est la nature, donc il aimait en fait ce côté-là et pour lui c'était important en tout cas d'avoir sa famille qui vit en fait dans un cadre, on va dire, un petit peu plus agréable.
D'accord. C'est peut-être aussi parce qu'il est arrivé dans les années 70 et ceux qui sont arrivés à l'après-guerre n'avaient pas cette vision-là où de Paris et des banlieues.
Ouais, mais quand même, ça veut dire que justement, après l'après-guerre, c'est qu'il y a quand même, tu vois, la majeure partie des personnes issues d'immigration. Ils ont atterri quand même, tu vois, sur Paris ou sur les alentours. Tu vois,
ouais, bien sûr.
Et bah, c'est cool, c'est bien. Hein. Et toi, Melik, c'est quoi?
C'est quoi?
T'es sorti d'Istanbul et.
Ah ouais. En plus, ouais, mon père, il vient d'Istanbul, hein, mais lui, il a atterri à Paris direct. Hein.
Direct, d'accord. Ouais. On rigole, mais tu vois, j'avais rien.
Ouais, bien sûr.
On se fait un troisième morceau et on.
Et dernier. Ouais.
Ça marche.
You gotta be like a victim. aku menggumam fatu.
Encore et toujours Youssou N'Dour, pour le troisième morceau.
Je suis en train de kiffer. Je suis en train de kiffer tout seul.
Non, mais c'est bien. Tu es en train de kiffer. Nous aussi, on kiffe. En plus,
bah ouais, ça fait découvrir un nouveau style, un style musical.
Exactement. Parce qu'on est ici, on est un peu hip-hop, tout ça, tu vois. Voilà.
Même Jamal valide.
Voilà. Donc, ça veut dire que c'est bien aussi de faire découvrir autre chose.
Tout à fait.
Tu vois. Et c'est, et justement, pour Youssou N'Dour, c'est vrai que ça a une attache particulière pour toi.
Oui.
Mais pourquoi? C'est quelqu'un que tu as déjà rencontré, c'est...
J'ai pas eu encore la chance de le rencontrer personnellement.
Okay.
Mais du coup, j'ai effectivement des proches et puis bon, je suis parti à pas mal de ses concerts à Bercy. Parce qu'il faut savoir que c'est une des premières personnes en fait qui a rempli Bercy aussi, en tout cas artiste étranger qui a rempli Bercy et qui remplit Bercy régulièrement. Donc ça, effectivement, ça va mettre à son crédit. Et du coup, effectivement, j'ai effectivement dans le cadre de mes activités des proches en fait qui collaborent déjà avec lui.
D'accord.
Sur certains projets, donc du coup, je pense qu'effectivement, je serai amené à le rencontrer peut-être prochainement, parce que j'ai la chance aussi d'aller au Sénégal aussi régulièrement.
Ouais.
Donc du coup, voilà, c'est qu'une question de temps. Et juste pour revenir sur ce son-là, effectivement, qui s'appelle Bamako, c'est le côté aussi panafricain. Le côté panafricain en fait de Youssou N'Dour aussi que je voulais mettre en avant, dans lequel aussi moi aussi je m'inscris, dans le sens où effectivement aujourd'hui on est dans un monde de plus en plus globalisé, hein. C'est fini effectivement de se dire effectivement on regarde que dans notre frontière, dans notre petit cadre, dans notre petit environnement. On raisonne effectivement à une échelle aujourd'hui continentale, et c'est ce côté-là en fait que j'aime bien aussi chez Youssou N'Dour en fait, qui n'hésite pas effectivement à porter l'Afrique dans ses propos, dans ses combats, dans ses initiatives. Et c'est vraiment dans ça aussi que moi je m'inscris, parce que au-delà effectivement d'être d'origine sénégalaise, les projets et les initiatives qu'on mène, c'est pour pouvoir faire en sorte que effectivement c'est l'Afrique qui puisse aujourd'hui se lever
et bénéficier de tout ça,
être mieux mise en valeur. Tout à fait.
Donc, tu prends vraiment l'artiste dans tous les sens,
dans sa globalité.
Vraiment. C'est
vraiment.
Ce qui est beau.
Et vraiment.
Et il y a on a la chance d'avoir ta fille aujourd'hui autour de la table. Est-ce que c'est un genre musical que tu lui inculques?
Ah, ils ont pas le choix. Ils ont juste pas le choix.
Elle connaît le son jour déjà et tout ça.
Non, exactement. Bon, après, c'est vrai effectivement que moi, je suis quelqu'un effectivement qui tient beaucoup à ses racines aussi.
Et voilà, et justement, c'est là où j'allais en revenir.
Ouais.
On grandit à Chalon en Champagne.
Tout à fait.
Comment on fait pour justement être comme toi et vraiment enraciné justement en Afrique, au Sénégal? C'est quoi? C'est ton père qui très tôt t'a emmené au Sénégal ou comment?
Alors c'est beaucoup le rôle des parents. C'est beaucoup le rôle des parents dans un premier temps, parce que du coup, moi par rapport au Sénégal, j'y étais plus jeune rarement. Okay. J'y étais rarement, parce que du coup j'y étais effectivement à ma naissance en 83. Après, la seconde fois où je suis parti, c'était en 91, et puis après la troisième fois en 2000. Ouais. Donc dites-vous que les gaps en fait de temps, ça vous fait déraciner, et ça vous fait déraciner complètement. Mm-hmm. Après, effectivement, quand on est jeune ici, surtout dans un pays comme en France, bon voilà, on a nos attaches, on a nos copains, on a notre environnement, on n'a pas forcément pensé effectivement à ses origines, mais le travail des parents, c'est là effectivement qu'il est super important. À travers effectivement, ne serait-ce que par la musique, la culture, les clips vidéo. Je pense que t'as dû en regarder beaucoup des clips vidéo effectivement du pays où effectivement on essaie de nous tenir toujours en lien avec le pays. Et c'est aussi par la culture, la gastronomie, les plats en fait que les papas et les mamans effectivement nous confectionnent tous les jours.
C'est très bon.
Le fait de faire quelques plats de tchèp, de yassa, de mafé au quotidien, ça vous rappelle effectivement, et ça vous donne en tout cas ce truc comme quoi vous avez des origines, donc voilà, sachez en tout cas les cultiver, sachez les conserver. Et derrière, moi aujourd'hui, j'ai la chance d'être marié, ma femme aussi en fait est originaire du Sénégal, et on essaie de perpétuer, on va dire, ces traditions-là, même auprès de nos enfants. Donc c'est pour ça que les sons comme ceux de Youssou N'Dour, chez moi, ben ça se diffuse.
En boucle.
Ça se diffuse en boucle, quoi.
Mais c'est important, c'est important. Ça se diffuse en boucle. Ça fait penser, moi, souvenir. T'as vu, moi, c'était, moi, je suis du Mali, mais c'est.
Bien sûr.
Sangaré, tout ça. Donc, il y a quand même.
Et
un
j'ai
peu
connu,
de...
non, mais bien sûr. Et je pense que toute la, on va dire, la partie ouest africaine, on a tous grandi, on va dire, dans les mêmes délires et dans les mêmes sons. Donc, où Sangaré, c'est pareil. Moi, chez moi, c'était toute la journée. C'était toute la journée. Donc, du coup, voilà, je pense qu'on on s'y retrouve bien, en tout cas, dans ce parcours.
Et c'est bien de le faire découvrir à
nos auditeurs. Ouais, carrément.
Complètement.
Bah écoute, merci beaucoup Yacouba de nous avoir fait partager ta passion pour la musique. On en sait un peu plus sur toi.
Avec plaisir.
On va s'écouter un autre petit morceau, on va passer à un autre genre que Jamal va nous envoyer tout de suite et on revient tout de suite sur Focus.
Parfait.
J'en crois, marcher le cœur tout en croc. Un temps d'entre eux sont partis en attendant que je le sauve. Je me souviens de ces nuits blanches, moi M4 dans la zone. J'avais jamais vu autant d'étoiles, à part quand je suis dans le fantôme. À bas les putains de fraudes, ouais, à bas les putains de fraudes. J'ai vu leur vrai visage, ouais, j'ai vu leur vrai visage, ouais. Quand j'avais le dos tourné, j'ai des idées noires dans la night. C'est les mêmes qui reviennent dans la journée. Ils ont oublié que la roue pouvait tourner. Ils vont mentionner dans la story comme s'il y avait aucune story. Mais y'a plus de place pour les sorts. Bébé, car mon cœur est chromé comme le métal que j'ai dans la paume. Je ne parle que de ce que je connais. Je ne parle que de ce que je connais. Tout ce que je connais.
Ce que je connais. Même quand ça va pas trop, je réponds la baisse. Je vois bien que tu me préférais quand j'étais en perte. Je vois bien que tu me préférais quand j'étais en hess. Yeah, yeah. Intérieur cuir, chrome entre les mains et chrome sur le cœur. Intérieur cuir, chrome entre les mains et chrome sur le cœur. Si j'ai un fils, je lui dirais de tout faire sauf d'être rappeur. Car le témoin que j'ai le tracker. Porte de la chapelle, je vois les crackers. En double appel, j'ai le comptable. J'entends le flic, je réponds pas. Ouais, je suis bipolaire comme la guerre froide ou le fils de Donda. Ouais, sur mon martre comme Aznavour. On pense pas à ce qu'on dit pendant la guerre. Et encore moins ce qu'on dit pendant l'amour. J'ai grandi là où les chiens ont peur des rats. Là où les chrétiens jurent Wallah. J'espère que le ciel nous pardonnera. Nous pardonnera, nous pardonnera, nous pardonnera.
Vous écoutez Focus sur IDFM, à retrouver tous les vendredis de 21h à 22h. On est toujours en compagnie de Yacouba qui est venu porter, nous parler de lui, mais aussi porter les valeurs de l'association, de l'association Tambe Espoir. Bah, c'est le moment, on va en parler de cette association.
Hein. Donc, nous, Yacouba, comment, bon, on sait que tu as des attaches quand même particulières au niveau du Sénégal. Mm-hmm. D'où vient l'idée de dire on va créer une association ou que tu vas t'impliquer justement pour la population sénégalaise à travers tes actions, tu vois?
Alors le monde associatif, c'est pareil, en fait j'ai baigné dedans depuis ma naissance. À la base, je vous parlais effectivement de mes origines champenoises, et en fait mon père était déjà à la tête d'une association, on va dire, africaine. Dans notre région, pour pouvoir faire découvrir en fait l'Afrique sous d'autres images qu'on pouvait voir, on va dire, à la télévision, où on voyait effectivement les difficultés que pouvaient rencontrer les pays africains. Donc mon père, déjà depuis une bonne trentaine d'années, il avait cette volonté en fait à vouloir faire découvrir un petit peu la culture africaine et à travers le monde associatif, la culture gastronomique, la mode, toutes ces choses là et donc c'est comme ça en fait que j'ai pris le goût déjà à la vie associative. Et quand je suis arrivé sur Paris, cette association a commencé, on va dire, à mener des actions sans être officielle. Parce qu'à la base en fait de Temps d'Espoir, en fait c'est un regroupement de proches et d'amis qui souhaitaient, on va dire, aider des familles qui étaient très défavorisées, on va dire, au Sénégal, en faisant des dons de manière très anonyme.
Okay.
C'est-à-dire qu'en gros, c'est des gens en fait de bonne composition qui veulent aider, mais qui ne veulent pas derrière avoir de reconnaissance.
Avoir
de reconnaissance. Donc, ce système-là, en fait, il a perduré pendant un petit moment, et du coup, ça nous a permis d'aider quand même pas loin de 500 familles.
D'accord.
Auprès desquelles, en fait, l'objectif premier, c'était d'apporter de l'aide alimentaire. Vraiment de l'aide alimentaire. Donc quand je parle d'aide alimentaire, c'était des colis qui étaient composés à base de sacs de riz, de l'huile, du sucre. En gros, des denrées alimentaires de premier niveau qui leur permettaient en gros de pouvoir au moins subvenir à leurs besoins essentiels.
Exactement.
Leurs besoins primaires.
Exactement. Et comment c'est perçu là on parle dans les années 70, 80, oui. Quand ton père a monté l'association.
Oui.
Comment il était perçu là-bas en fait? Comment il a été accueilli pour dire en fait c'est une association africaine? Comment tu vois? J'ai la curiosité en fait de savoir si l'accueil en fait des gens, des champenois et tout ça.
On parle de l'accueil à Châlons-en-Champagne ou l'accueil au Sénégal?
Ah, les deux. Mais les là, deux. Là, plus particulièrement là, en France.
En France.
Le fait de créer une association quand on arrive dans les années 80, enfin 70.
Oui. Non, bien sûr, bien sûr. Alors, les gens sont toujours très curieux.
OK.
Les gens sont toujours très curieux parce qu'au début, effectivement, ils peuvent être un peu craintifs parce qu'on connaît pas. Et ça, effectivement, c'est un gros souci qu'on a jusqu'à aujourd'hui en France, hein. Les gens, effectivement, sont, on va dire que des fois peuvent manquer d'ouverture d'esprit parce que c'est de la méconnaissance en fait. Et quand effectivement vous ouvrez effectivement ces portes-là, vous ouvrez les portes, vous ouvrez même un petit peu, vous faites découvrir ces nouvelles cultures, c'est là effectivement que les gens deviennent beaucoup plus compréhensifs. Et là effectivement la tolérance va commencer à rentrer en jeu et ça permet effectivement de faire en sorte que les relations même qu'on vit avec nos concitoyens soient beaucoup plus apaisées.
Vraiment. Et on sent aussi que t'étais très apaisé, t'étais apaisant dans la façon de parler.
Carrément, t'as une voix suave.
T'es un Doliprane.
Suave, type Barry White ou quoi?
Ah, on s'en rapproche.
On s'en rapproche. Là, tu peux faire concurrence avec Mélic.
Ah ouais.
On va faire un duo.
Salut. Ciao.
Moi, je peux venir animer les émissions, du coup.
C'est un honneur d'avoir participé avec vous. Merci à tous.
Et on parlait justement de l'accueil qu'il y a eu en France. Et maintenant, l'accueil que vous avez pu avoir au Sénégal.
L'accueil, forcément, il est toujours magnifique. Quand vous allez rencontrer des gens qui n'ont absolument pas de moyens, qui du coup ne savent même pas ce qu'ils vont pouvoir manger demain, comment ils vont pouvoir s'habiller, et le fait de vous voir arriver comme ça et de leur mettre à disposition, toutes ces choses-là, mais de manière complètement gratuite. C'est mon carburant en fait. C'est ce qui me permet. Moi, c'est ce qui me permet en fait de me sentir bien. Les gens en fait, ils utilisent des fois d'autres choses pour pouvoir se mettre bien, se sentir bien. Moi en fait, c'est
partagé.
C'est ça qui me permet. Moi, c'est ça qui me permet de me faire mon kiff quoi, tout simplement. Et de me dire qu'en fait que j'aide des gens et que grâce aux actions qui sont menées par l'association et par les adhérents et par nos donateurs, on arrive à faire du bien à d'autres personnes, je me sens super bien quoi.
Et c'est en 2017 du coup que se crée officiellement l'association.
Exactement.
On l'a pas dit, on l'a nommé, c'est Tambe Espoir.
Tambe Espoir.
Tout à fait, c'est l'association Tambe Espoir effectivement.
D'accord. Et tu peux nous expliquer d'où vient ce nom? Enfin, moi je me doute un peu, mais est-ce que tu peux nous parler justement du nom?
Bien évidemment. Donc Tambe Espoir en fait vient de la ville Tambacounda. Donc Tambacounda qui est la ville d'origine du président de l'association qui s'appelle Ibrahima Kanté, qu'on appelle Papis aussi, donc qui est originaire de cette ville, donc qui était à l'initiative en fait de ces distributions de denrées alimentaires qu'on faisait de manière anonyme dans un premier temps. Et du coup, Tambe Espoir, donc c'est la contraction de Tambacounda et Espoir, parce qu'on a vocation à donner de l'espoir, on va dire, à toutes les personnes auprès desquelles on agit aujourd'hui.
Et aujourd'hui, quelles sont vos actions concrètes au-delà de la distribution de denrées? Parce que je sais que vous faites plein d'autres choses.
Il y a pas mal de choses.
Ouais. Bien sûr. Parce qu'effectivement, on a commencé avec la distribution de denrées alimentaires. Derrière, en fait, on s'est associé avec les autorités locales, parce qu'il faut savoir, aussi, c'est que toutes ces actions-là ne peuvent pas être menées de manière un petit peu aléatoire. Ça nécessite effectivement une organisation et d'avoir certaines autorisations aussi. Donc du coup, on s'est rapproché nous vite à chaque fois des autorités locales des villes dans lesquelles on intervenait pour pouvoir officialiser, on va dire, nos actions. Donc de là, on a créé une boutique solidaire. Donc une boutique solidaire comme une épicerie sociale en fait qu'on pourrait trouver ici en France, qui permet en fait aux gens qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de travail, de pouvoir se fournir en denrées alimentaires, mais à des prix beaucoup plus intéressants, beaucoup plus attractifs. Okay. L'idée en fait, c'est au-delà de l'humanitaire, c'est de permettre de conserver la dignité, on va dire, des gens.
Là, c'est important.
C'est pas parce que effectivement ils sont dans le besoin que on doit les traiter effectivement comme des gens, on va dire, des gens inférieurs. Non, c'est des gens comme nous, donc qui ont cette dignité-là. Donc on leur permet aussi de pouvoir acheter leurs denrées alimentaires, mais à des prix beaucoup plus attractifs. Et donc ça, effectivement, cette boutique solidaire qu'on a ouvert maintenant il y a 2 ans, qui continue de fonctionner, elle permet de tourner grâce aux dons qu'on arrive à avoir du coup de nos donateurs, qui nous permettent nous d'acheter ces denrées alimentaires-là et de les vendre un petit peu moins cher, on va dire, aux gens qui en ont besoin.
D'accord. Et on en parle là. Donc là, c'est la région du au Sénégal, c'est la Tabacounda.
Oui.
Je sais que Tamba Espoir a vocation aussi de
s'étendre.
De s'étendre. Tout donc, à est-ce fait. Que tu peux nous parler justement de l'envie et ce que vous faites aussi ailleurs? C'est vrai
bien
que
évidemment,
c'est
bien
ancré
évidemment.
Au Sénégal, mais pas que.
Effectivement, on parle de Tamba Kounda en particulier, mais on a mené d'autres actions sur la région de Dakar, notamment au moment des inondations qui ont eu ces dernières années, où on intervient auprès des familles qui ont été sinistrées. Mais c'est aussi une région où on intervient qui s'appelle le Fouta, en fait. Le Fouta au Sénégal, donc une région au nord-est du coup du Sénégal, où on intervient aussi du coup dans le cadre d'orphelinats, de structures d'accueil d'enfants, pour lesquelles on va pouvoir leur procurer vêtements, jouets, livres, donc tout ce qui peut leur permettre un épanouissement et un éveil beaucoup plus chaleureux.
Okay. Et je pense que c'est l'osmose pour une asso de pouvoir s'étendre dans ses activités, de proposer plein de choses, mais aussi de pouvoir s'étendre sur le territoire, aller ailleurs
et au-delà même du Sénégal.
Ouais, l'idée, c'est ça. C'est une fierté.
Voilà, l'idée effectivement à travers nous nos adhérents, c'est de pouvoir s'étendre au-delà du Sénégal et d'avoir vraiment cet état d'esprit panafricain en fait que je citais précédemment et de se dire que nos actions en fait elles se limitent pas au Sénégal. On a dans nos adhérents des Maliens. On a des gens d'Haïti, on a des gens effectivement du Maghreb, des gens du Maghreb qui sont là. Donc aujourd'hui, on a même mené des actions en partenariat avec d'autres associations, au Mali particulièrement, où on a pu créer des puits pour des populations en fait qui n'avaient pas d'accès direct à l'eau. On a pu au Maghreb pu faire aussi pareil des distributions de colis alimentaires pour des gens qui en avaient besoin et tout ça grâce à certains partenaires que je vais me permettre de citer.
Ouais, c'est important.
Voilà,
c'est
je vais me permettre de citer, dont Mohamed Kolanta en fait JVM en fait qui nous suit beaucoup et qui nous supporte beaucoup, donc que je tenais à remercier, que je tenais en tout cas à faire une petite dédicace, et l'association Cœur d'Afrique est d'ailleurs une autre association dans laquelle j'agis aussi, avec lesquelles on était encore au Sénégal au mois de mai dernier et où on a pu à la fois faire des distributions alimentaires et on a pu aussi se rendre dans des structures d'accueil d'enfants qui étaient un petit peu soit enfants de la rue ou enfants déscolarisés, remettre dans le droit chemin et leur aider en tout cas à avoir de meilleures perspectives d'avenir.
Et vous pensez même à vous lancer dans des projets agricoles?
Exactement.
Et ça, on en reparlera juste après. On fait une petite pause.
Un petit morceau.
Un petit morceau et on revient et on reparle de tout ça.
Ça marche.
Giving on a stay, need you to get on top of me. We at the party of the century. I'm gonna take your last name. All the relationships I put to shame. I'm gonna rock you all the way. Honey, I needed you like yesterday.
Vous écoutez Focus sur IDFM, à retrouver tous les vendredis de 21h à 22h. On vient de s'écouter Pop, Dadana, Duru. Un beau petit morceau, hein. Ouais, on nous a mis dans l'ambiance, on a tous bougé la tête.
On
est toujours avec Yakuba. Yes. Yakuba, t'as dit une phrase qui m'a un peu marqué. Je l'ai noté carrément sur ma fiche. T'as dit la joie de ces personnes lorsqu'on arrive à les aider, c'est notre carburant.
Exactement.
Comment est-ce que tu peux expliquer cette phrase? En quoi? Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est quoi? C'est dû à ton métier?
C'est un petit parallèle, effectivement. Okay. C'est un petit parallèle au job du quotidien. Non, c'est vraiment que quand on est dans l'humanitaire et dans la vie associative, on n'attend pas forcément à avoir une rémunération ou un salaire par rapport aux actions qu'on fait, parce qu'on le fait en fait de notre bonne volonté,
de bon cœur.
Et donc du coup, et comme je dis, le salaire, en tout cas que nous on va chercher, c'est le sourire des gens.
C'est le bien-être
des gens. Et c'est pour ça que je dis c'est notre carburant, parce que tous les gens avec lesquels, en tout cas, je suis impliqué dans cette association sont tous animés par la même chose. C'est de se dire comment on peut contribuer, nous, à notre petite échelle, à l'amélioration des conditions de vie de ces gens-là. Mmh. Et comment, en tout cas, on peut leur permettre de retrouver un peu d'espoir. D'où le nom, effectivement, de terme d'espoir, c'est de se dire comment ces gens-là, effectivement, ils peuvent se projeter demain avec une meilleure vision, avec de meilleures espérances.
Et justement, toi, tu te nourris du sourire des gens, de la joie des personnes. Mais pour être une association, pour essayer d'œuvrer comme tu œuvres, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Dis-nous un peu comment t'arrives à te débrouiller, comment l'association arrive à se débrouiller justement pour essayer de faire des choses au Sénégal.
Bien sûr. Donc déjà, dans un premier temps, hein, un grand big up et merci à nos adhérents en tout cas qui sont là et qui nous soutiennent nous depuis et qui nous permettent en tout cas de par les dons en fait qu'ils nous font habituellement de pouvoir mettre en place certaines actions. Après, c'est aussi beaucoup de recherches de partenariats, de demandes de subventions, notamment la fondation BNP Paribas qui nous a accompagnés à deux reprises déjà aujourd'hui. Donc, ils nous ont fait confiance sur certains projets qu'on a pu mener, notamment le cas de la boutique solidaire. La boutique solidaire a été financée en partie grâce à la fondation BNP Paribas qui nous a soutenus sur ce projet. Après, je le citais juste il y a quelques minutes, Mohamed Koh-Lanta, qui contribue et qui participe régulièrement, en tout cas, à nos actions, à travers de l'accompagnement et de l'aide. Et après, derrière, c'est aussi le Conseil général des Yvelines. Okay. Donc à travers son organisme qui s'appelle l'ICID, qu'on sollicite régulièrement aussi pour pouvoir nous aider à mettre en place certains projets.
Et c'est important de le dire, c'est super important de le dire.
Mais du coup, où est-ce qu'on peut retrouver l'association?
Et
comment est-ce qu'on peut adhérer et soutenir?
Alors,
il faut faire l'appel aux dons là, nos auditeurs là, faites preuve de générosité.
Exactement. Donc, on peut nous retrouver facilement sur Instagram, en tout cas sur le nom Tambe Espoir, en fait Tambe T-A-M-B Espoir. Où vous retrouvez les dernières actions qui ont été faites, les projets qui sont menés, et surtout notre feuille de route qui nous attend pour 2023, parce qu'on a une feuille de route qui est assez chargée avec des projets assez ambitieux. On en parlait tout à l'heure, notamment un projet d'agriculture vivrière, parce que au-delà effectivement de l'aide alimentaire qu'on peut donner, on s'est rendu compte aussi d'une chose, qu'il fallait en fait franchir une étape. En fait, passer de l'assistance à l'autosuffisance et à la dépendance. Okay. De l'indépendance. C'est-à-dire que ces gens-là, effectivement, auxquels on apportait aujourd'hui des kits alimentaires, demain, il faut leur apprendre, en fait, à comment cultiver leur propre nourriture. Leur apprendre à comment, effectivement, conserver leur propre nourriture. D'où la naissance, en fait, de ce projet agricole, qui permettra effectivement aux personnes de se former au métier agricole, de travailler aussi, d'avoir un emploi, de pouvoir se générer des revenus, mais aussi de mettre en place une unité de transformation qui va permettre en gros de pouvoir conserver aussi leur production qu'ils vont pouvoir faire et pourquoi pas de la vendre aussi. Derrière, en fait, c'est tout un schéma et c'est tout un projet de grande envergure qu'on est en train de mettre en place actuellement qui est chiffré aux dernières estimations à peu près 150 000 euros. Donc 150 000 euros qui permettraient effectivement à une bonne partie de la population de Tambacounda, en l'occurrence, parce que c'est un premier test, c'est une expérimentation qu'on va faire déjà dans Tambacounda, qu'on va essayer d'étendre dans d'autres pays et dans d'autres régions, on va dire, du Sénégal. Et dans l'idée, effectivement, c'est de pouvoir mettre en place ce projet agricole qui nous tient vraiment à cœur et qui nous permettrait vraiment de changer aussi la philosophie, de se dire on arrête l'assistana. Ouais. On rentre maintenant dans l'action.
Votre objectif, comme plein d'assos, c'est que les gens que vous aidez n'aient plus besoin de vous, au final.
Mais complètement. De les rendre vraiment indépendants, autosuffisants, et qu'ils n'aient plus effectivement besoin derrière de pouvoir attendre effectivement qu'un bienfaiteur soit là pour pouvoir tendre la main. Non. On passe, on va dire, à un autre step. Une nouvelle étape.
C'est important. C'est important de le dire. En tout cas, nos auditeurs, si vous voulez, allez-y. Envoyez tant espoir, et puis sinon vous passez par nous et on vous oriente.
Exactement. On se fera en tout cas un plaisir, nous, de recevoir, de venir nous présenter aussi à vous et de nous découvrir. Et je voulais juste ajouter un dernier point qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'on a on a beaucoup d'initiatives, en tout cas, pour pouvoir contribuer à l'émancipation des femmes au Sénégal. Ouais. Notamment un autre projet, en fait, qu'on a appelé un peu Women in Action. Donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir faire en sorte que les femmes, qui sont un peu la colonne vertébrale des familles en Afrique, puissent vraiment tenir une place vraiment prépondérante dans la société. Pour ça, en fait, on est en train de soutenir une association qui s'appelle Kambeng. En fait, Kambeng, qui veut dire, dans mon dialecte, d'une seule et unique voix.
D'accord.
Donc c'est une association de femmes, en fait, qui sont regroupées pour pouvoir faire des projets d'agriculture, faire des projets d'alphabétisation et pouvoir, en fait, se former pour pouvoir tenir des commerces. Donc pour ça, encore une fois, j'appelle à toutes les générosités, j'appelle à toutes les bonnes personnes, en tout cas, qui sont prêtes à contribuer à ce projet-là, d'aider nos mamans, parce que du coup, j'ai même inclus ma maman dans ce projet-là pour pouvoir exactement. Non, ça devient une affaire familiale. J'ai même inclus ma maman pour pouvoir un petit peu faire booster les choses et pour pouvoir un petit peu faire un peu de leadership, on va dire, dans cette association. Et donc du coup, toute aide est la bienvenue pour pouvoir aider ces femmes-là à devenir vraiment les dirigeantes de demain.
En tout cas, le message est passé.
Merci beaucoup. Tu peux être fier de tout ce que tu fais. C'était un très bel échange, très intéressant. On a appris plein de choses. Et en espérant que ton passage dans l'émission permette à l'association de recueillir des dons, peut-être des nouveaux adhérents. En tout cas, nous, on fait partie.
Je vous avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour cette tribune. Merci en tout cas à vous. J'ai passé un super moment.
Partagé en tout cas.
En tout cas, je serais très content de revenir une prochaine fois pour vous donner un petit peu l'état d'avancement des projets qu'on a fait.
Nous, la porte, elle est ouverte. Donc, à partir du moment où t'es venu une fois, c'est bon, ça y est, c'est
ça
parti.
Ça marche. Tu fais partie de la famille.
En plus, il y en a qui ont bien aimé ta voix. Je pense que t'as un poste à prendre.
Attention, Mélie. Ça marche. Sauter.
Merci
encore.
En tout cas,
merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine
pour un nouveau numéro de Focus.
Et big up à Camille. Big up à Camille Bélanger,
la présidente de l'association.
Je t'embrasse, Camille. Big up.
Voilà, elle est là, elle œuvre dans l'ombre, mais elle est là. Merci, Camille.
Allez, merci à tous. À plus.
Ciao.
Tous ensemble présente Focus. Tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM.
98 FM. Focus. Focus.
98 FM.
En Ile-de-France.
Écoutez IDFM.
Sur 98 FM. IDFM.
Toujours plus proche de vous.